RFI.
Alors, on dit quoi ?
Hello, c'est Diarra. Je suis de retour dans notre émission Alors, on dit quoi ? L'arbre à palabres de la jeunesse africaine. Ici, c'est simple, le micro est à nous, nous les jeunes. Et pour ceux qui m'écoutent pour la première fois, eh bien, je suis Diarra Ndiaye. Ma mission, vous donner la parole chaque samedi sur RFI. Je suis jeune journaliste et je me pose les mêmes questions que vous sur l'avenir, la vie de famille, les angoisses, la carrière, la santé, les galères. Vous l'aurez compris, je m'intéresse à notre quotidien. Et au programme de cette semaine, Internet. Et oui, aujourd'hui, on a voulu savoir ce que vous faites de beau avec cet outil. Kongosa, recherche, réseaux sociaux, on vous a posé la question, réponse dès le début de l'émission. Et comme vous le savez, le programme ne s'arrête pas là. Nous avons rencontré Bouchra, une jeune tchadienne qui milite en faveur de l'émancipation des femmes. Johan vous donnera des conseils pour bien mettre à profit votre stage. Valdez vous décortiquera une nouvelle infox. Et nouveauté cette semaine, nous accueillerons Eva qui viendra nous parler 7e art avec les coulisses des préparatifs du Festival panafricain du cinéma et de la télévision de Ouagadougou, le FESPACO. Il y a tellement de choses que je vous propose de démarrer dès maintenant. Irma Koy, c'est parti.
Alors on dit quoi avec Diarra Ndiaye?
On le sait, Internet est quasiment devenu notre compagnon de tous les jours. Actuellement sur le continent, on compte environ 281 millions d'internautes. Internet est avant tout une plateforme qui brise toutes les barrières puisque pour peu que l'accès à Internet fonctionne, les échanges, en particulier sur les réseaux sociaux, ne se comptent plus à l'échelle nationale mais plutôt à l'échelle mondiale. Preston, notre correspondant au Tchad, a voulu savoir ce qu'il en était du côté des jeunes tchadiens. Je vous propose d'écouter son reportage.
Accès à Internet au Tchad. Les jeunes ne sont pas au bout de leur galère. L'accès à Internet était un luxe que les jeunes tchadiens ne pouvaient se permettre il y a quelques années. Au début, les fournisseurs d'accès à Internet étaient quasi inexistants. Seuls les employés de l'État ou ceux de certaines entreprises privées, des grandes institutions en N'Djamena, avaient le privilège de se connecter dans leur bureau via le Wi-Fi des services, bien sûr pour ceux qui avaient une notion basique en outils informatiques. Jusqu'au début de l'année dernière, pour un jeune Djaménois, pour ne pas dire tchadien, il faut débourser jusqu'à 1000 francs CFA, voire plus, l'équivalent des frais de ration alimentaire d'une famille modeste pour s'offrir une connexion d'une heure dans un cybercafé. Laquelle connexion a un débit tellement lent que lorsque vous réussissez enfin à avoir accès à ne serait-ce que votre boîte email, vous épuisez votre temps autorisé. Quelle galère entendait-on dire souvent à l'époque. Guillaume Djerané, un jeune diplômé au chômage, se rappelle bien cette période de galère d'Internet.
Bon, avant, il fallait peut-être aller au cyber absolument, puisque les téléphones high-tech n'étaient pas aussi à la portée de tout le monde. Et aujourd'hui, quand même, ça va. Sinon, entre-temps, pour se connecter, il fallait venir dans les cyber et c'était hyper cher. C'était du genre 1 heure, 1000 francs, 1500, pour des débits qui ne valaient pas la peine. Malgré ça, il y avait quand même des jeunes comme nous qui voulaient toujours rester connectés. Donc, on faisait ces sacrifices-là, malgré que c'était cher.
Puis, il y a environ 4 ans, les opérateurs de la téléphonie mobile ont commencé à proposer à leurs abonnés l'accès à Internet via leur smartphone. Là encore, on n'est pas sorti de la fameuse galère. Le coût des mégabits pour la connexion via les données mobiles était aussi élevé que celui des cyber. Thierry, jeune ingénieur du son de son état, nous raconte comment il s'y prenait.
Internet, tout au départ, c'était un ouf de soulagement, mais bien trop vite, on s'est aperçu que c'était un luxe qui n'était pas réservé à tout le monde. Déjà, c'était trop difficile pour un coût super élevé. Disons, 1 giga qui coûtait pratiquement dans les 12 000 francs. Oui, et faisant de nous l'un des pays où l'Internet coûte le plus cher au monde. L'un des 5 pays, je me rappelle encore. Et vraiment, c'était la galère cette époque-là. Aujourd'hui, je peux dire que il y a eu de l'amélioration. On a pu sortir la tête de l'eau, mais il reste tout le corps sous l'eau. C'est vrai, bien de jeunes arrivent à se connecter, mais la grande majorité n'a pas encore l'accès à Internet. Et pour ma part, je dirais que bien des efforts ont été fournis, mais il reste encore vraiment une grande part. Pour nous, c'est un ouf de soulagement parce que l'Internet, 1 giga qui passe de 12 000 francs à 1 500, c'est un ouf de soulagement. Mais toujours est-il que si on compare ça, on compare à d'autres pays, c'est encore un coût énorme, quoi. Et aujourd'hui, encore avec la crise que vit notre pays, c'est vraiment pas facile.
Selon un rapport de la Banque mondiale publié en début de cette année, 3 665 660 personnes sont abonnées au réseau des opérateurs de la téléphonie mobile au Tchad. Il indique aussi qu'en 1997, le Tchad comptait 49 internautes contre 218 984 internautes en 2011 et plus de 400 000 internautes à ce jour. Il est à reconnaître que de plus en plus de jeunes cherchent à accéder au net et par ricochet aux réseaux sociaux. Mais pour ceux qui y ont déjà accès, que font-ils sur Internet? Combien de temps restent-ils connectés et pourquoi? Est-ce que le coût de connexion aujourd'hui est réellement abordable pour eux? Quelles sont leurs attentes vis-à-vis des autorités en charge d'éthique et des fournisseurs d'accès à Internet? Écoutons leurs réponses.
Par jour, presque toute la journée, je reste connectée parce que j'ai mes amis qui sont ailleurs, j'ai mes parents qui sont ailleurs et il faut que je me connecte pour causer avec ces personnes. Et aussi, en tant qu'étudiante, j'ai mes sujets de TD et autres que je me connecte pour chercher les données. Donc, c'est presque toute la journée que je reste connectée.
Oui, je me connecte. Rarement, parfois deux fois par semaine, le forfait 200 MB par 500. Là. Si je trouve 500, je me connecte. Dans le cas contraire, je reste comme ça. Beaucoup plus, je contacte mes amis sur WhatsApp ou bien si j'ai un travail à faire des recherches, des cours, sinon je n'ai pas autre chose. On n'a pas le droit de visiter YouTube, les voir télécharger des vidéos, des choses directes, des actualités. L'Internet qui est cher avec le système de VPN encore.
Bon, aujourd'hui, je peux dire que c'est mieux. C'est pas vraiment encore ce qu'on veut, mais c'est vraiment un grand effort qui a été fourni pour qu'on puisse arriver à se connecter avec certains réseaux ici. Avec 500 francs, tu as au moins 200 mégas. On se connecte vraiment comme on veut. Je peux me permettre même de suivre des films sur YouTube directement. Donc, je peux dire qu'il y a une grande amélioration et je félicite ça, quoi. Mais si je dois vraiment me mettre dans la situation d'étudiante ou bien d'élève, je peux dire que le prix est quand même encore élevé. Si on peut encore diminuer les prix, ça va nous aider à mieux faire des recherches sur Internet.
Aujourd'hui, c'est pas donné à tout le monde déjà. Dès que tu accèdes, il va falloir établir un pont via les VPN et tout ça pour accéder. Et ce qui ne fonctionne pas, c'est-à-dire pour tout le monde. Et pour quelqu'un qui ne connaît pas tout ça, ça reste encore un problème. Il va falloir télécharger ce VPN-là qui va souvent prendre beaucoup de temps. C'est vrai, on a besoin de communiquer, d'être ensemble, de s'échanger. Mais cela reste encore un problème pour y accéder. Déjà, pour ma part, je communique plus avec des gens qui font la même chose que moi. Accéder sur les forums, il y a plus d'interactions, il y a plus d'échanges avec des gens qui sont de l'autre bout de la terre. Et tout ça, avant, franchement, c'est ce que je passe mon temps à faire le plus. À part ça, il y a des proches avec qui on communique, qui ne sont pas au pays et qu'on doit s'échanger, histoire de garder les liens.
Comme vous l'auriez constaté, le coût de MB pour accéder à Internet a certes baissé au Tchad, mais toujours est-il qu'il n'est pas à la portée des jeunes élèves et étudiants. Aussi, l'accès à certains réseaux sociaux comme WhatsApp, Facebook et Instagram est limité. Il faut donc recourir à un VPN, Virtual Private Network. À ce sujet, notons que les deux opérateurs de la téléphonie mobile au Tchad étaient il y a peu avec leurs avocats face à un juge du tribunal de première instance de N'Djamena. Ils sont accusés d'avoir coupé depuis mars 2018 le réseau Internet au Tchad. D'un côté, les avocats de la partie civile cherchent donc à faire appel et de l'autre, les internautes et activistes continuent de lutter depuis ce temps pour rétablir le droit numérique et l'accès à Internet pour tous.
Alors pour approfondir le sujet, je suis justement en compagnie de Preston qui est notre correspondant au Tchad et qui a réalisé ce reportage. Bonjour Preston.
Bonjour Diarra.
Alors vous êtes un jeune journaliste en alerte justement sur ces questions d'Internet. Dites-nous aujourd'hui, se connecter est indispensable pour la jeunesse tchadienne?
On va dire que ça va de soi, c'est relatif. Il y a ceux qu'on dirait des méticuleux qui vont faire des recherches sur Internet concernant par exemple un TD à préparer et tout, donc ils font des recherches, qui vont par exemple sur YouTube pour chercher des tutoriels. Il y en a qui font des cours à distance aussi, donc il y a une frange qu'on va dire qui va dans ce sens pour faire des recherches, mais pour les autres, c'est plus les réseaux sociaux comme Facebook, par exemple, qui est presque banal aujourd'hui. La plupart y va, par exemple, pour se faire des amis, pour même se faire voir un tout petit peu. Parce que si on sait aujourd'hui au chat, par exemple, que les réseaux, je veux dire, les médias traditionnels sont pas facilement accessible à plus d'un, eh bien les réseaux sociaux, on va dire, ont décentralisé les choses. Donc Facebook, quiconque peut y aller, dire son opinion, faire ce qu'il a envie de faire. Et voilà, donc je pense que Facebook, ils sont plus en plus sur Facebook, donc plus vont pour la distraction, plus que pour faire des recherches.
Moi, quand je vais sur les réseaux sociaux, c'est pour faire des recherches et compléter mes cours sur Internet, mais sur WhatsApp et Facebook, c'est pour correspondre avec mes amis. Donc, je peux dire en résumé, j'utilise les réseaux sociaux pour des questions éducatives.
Preston, on vient d'entendre un auditeur, Jean, qui lui nous explique qu'il utilise Internet comme un outil ludique, éducatif, en tout cas pour apprendre. Vous constatez plutôt le contraire chez les jeunes tchadiens qui, eux, l'utilisent plutôt comme un outil de divertissement.
Absolument. Ils sont très rares, ceux qui utilisent Internet aujourd'hui pour apprendre, pour découvrir, pour s'informer, que pour se distraire.
Et au niveau des tarifs, est-ce que ça reste accessible? Tout à l'heure dans le reportage, ça a été un peu abordé, mais c'était le cas d'une ou deux personnes. Est-ce que c'est cher de se connecter à Internet aujourd'hui au Tchad?
Comme on l'a mentionné un peu plus haut, il y a quelques années, ou peut-être 4 ou 5 ans en arrière, c'était assez cher. Pour un giga, il faut débourser environ 10, 12 000 francs. Mais il y a quelques mois, juste en début de cette année, eh bien, les opérateurs de la téléphonie mobile ont cassé le prix. Aujourd'hui, avec 1 500 francs, vous avez jusqu'à 1 giga. 2 000 francs, vous avez 1 giga toujours, mais valable 2 jours. Donc du coup, le prix, il est cassé. Et on va dire que c'est un effort louable. Mais toujours est-il que pour les jeunes, parce que ça, peut-être on va le dire pour des personnes qui sont dans la vie active, qui travaillent, qui ont peut-être un revenu mensuel, mais les jeunes étudiants et élèves, ils n'ont pas ça. Ils sont à la limite à la bourse des parents. Du coup, 1 500 pour avoir 1 giga, c'est peut-être pas toujours donné. C'est pas tous les jours que ces jeunes-là voient 500 francs ou 1000 francs. Donc le coût est toujours élevé et ils demandent à ce que l'on baisse encore ce prix. Et au-delà de ça, il y a l'usage donc du VPN qui, selon les spécialistes, consomme donc plus, les données consomment deux fois plus les données pour celui qui l'utilise que pour celui qui n'utilise pas. C'est-à-dire, lorsque vous n'utilisez pas le VPN, eh bien, peut-être que si vous avez 200 mégabits et que vous devez l'utiliser sur une journée, ça tient. Mais si vous utilisez un VPN, du coup, c'est la moitié. C'est-à-dire, vous tenez peut-être 12 heures d'horloge et du coup, vous n'avez plus de connexion. Alors, je pense que c'est toujours un problème de ce côté-là.
Salut Diara, c'est Hassan du Tchad. Eh bien, effectivement, ici, le Tchad, le réseau téléphonique est vraiment naze. Même les opérateurs téléphoniques mobiles, ils n'ont pas de réponse à nous donner concrètement, puisque ce sont des instructions qui leur ont été faites par le gouvernement. Donc, il faut qu'on soit à l'Internet par VPN. Eh bien, c'est là où on en a marre déjà.
Preston, Hassan, qu'on vient d'entendre, est également un jeune tchadien qui utilise ce fameux VPN que vous avez mentionné dans le reportage. Certains parviennent donc à obtenir une bonne connexion via ce système, un système qui est aussi un moyen simple de contourner les restrictions d'accès.
Oui, en fait, le VPN est justement le pont qui permet aux jeunes internautes tchadiens, comme tout autre d'ailleurs, de contourner la restriction. Donc, il faut l'utiliser si on veut accéder, par exemple, à WhatsApp, on veut accéder à Facebook ou à Instagram, il faut utiliser
Preston,
VPN.
Preston, vous et Hassan, vous expliquez donc qu'en fait, il y a des réseaux interdits et diverses restrictions au Tchad.
Oui, justement, parce que l'on accuse les opérateurs de la téléphonie mobile au Tchad d'avoir coupé l'accès à Internet depuis mars dernier. Et aujourd'hui, pour accéder à certains réseaux sociaux, il faut absolument utiliser le VPN. Malheureusement, le VPN consomme plus de données qu'il ne le faut.
Et est-ce que c'est à la portée de la jeunesse tchadienne? Est-ce que c'est répandu?
Je pense que pour ceux qui se connaissent depuis un certain moment, c'est parti comme cette information qu'on dit de bouche à oreille. Tu essaies de te connecter, tu n'arrives pas à te connecter, alors tu poses la question à ton ami, mais qu'est-ce qui se passe? Moi, je n'arrive pas à me connecter. Ah non, vas-y, tu peux regarder juste un VPN là sur Google Play, tu télécharges et ça y est, tu peux te connecter facilement. Donc, l'information est partie de cette façon. Donc, beaucoup de jeunes connaissent l'existence du VPN, l'utilisent aussi, seulement ça leur revient cher.
Alors, je suis également en compagnie de Queen, qui, elle, utilise les réseaux sociaux, non pas via un VPN, mais par un canal plutôt courant, qui est la 3G, ici en France. Vous animez vos propres réseaux sociaux avec beaucoup de contenu. Est-ce que vous sentez, vous aussi, que les jeunes font d'Internet un outil vraiment incontournable, qui est créatif, un outil informatif, un outil instructif?
Oui, aujourd'hui, je trouve que, en tout cas, la jeunesse en France, ou la jeunesse francophone, utilise beaucoup les réseaux sociaux pour s'affirmer. Aujourd'hui, c'est un moyen gratuit que je peux être qui je suis, je peux exprimer ma créativité, je peux exprimer surtout mon identité sans qu'on me juge ou sans que je dois absolument remplir des cases. Et je trouve qu'on n'a pas eu cette chance-là, nos parents n'ont pas eu cette chance-là d'avoir vraiment cette liberté-là de pouvoir s'exprimer. Et aujourd'hui, c'est vraiment, je pense que c'est vraiment le premier point, c'est que voilà, aujourd'hui, je peux m'exprimer avec les réseaux sociaux, je peux faire ce que je veux, et voilà.
Parlez-nous justement de cette utilisation quotidienne. Que faites-vous, vous, des réseaux sociaux? Vous êtes une jeune Nigériane.
Oui, donc moi, je suis une jeune diplômée, donc les réseaux sociaux, j'ai découvert les réseaux sociaux au travers de YouTube d'abord. Donc j'ai commencé ma chaîne YouTube en 2015 à peu près, et donc j'étais passionnée par la beauté, et à chaque fois, lorsque je passais dans les rues, on me demandait comment tu te maquilles, comment tu fais ça, et je ne pouvais pas expliquer pendant longtemps comment je réalisais mes maquillages, donc je me suis dit, bon, je vais me lancer sur YouTube. Comme ça, c'est un moyen pour moi de seulement partager ma passion, mais aussi d'aider les autres, en fait. Donc, c'est la première motivation, c'était d'abord d'aider les autres. Et donc, YouTube a commencé et j'ai vu la liberté que propose YouTube. Donc, le fait que je peux exprimer ma créativité, ma passion. Mais en plus de ça, je peux me connecter à une communauté et créer une communauté autour de quelque chose. C'est tout simplement puissant, en fait.
Donc, aujourd'hui, vos followers dépassent les frontières françaises.
Ah oui, tout à fait.
Vous êtes suivis
oui.
Un petit peu partout oui. Dans le monde. Et on voit aussi que l'Afrique compte 281 millions d'internautes pour un taux d'accès à 23% en moyenne, d'après les chiffres. Mais il faut rappeler aussi que tout y passe. Hein. Il y a des appels à la haine, des moqueries de toutes sortes. Est-ce que vous avez, vous, été confronté à ces côtés un peu négatifs d'Internet?
Dieu merci, pas encore. mais j'ai connu des personnes qui ont été confrontées à ce côté bad buzz, parce que c'est vrai que tout ce qu'on dit sur Internet reste sur Internet. J'ai toujours dit aux personnes qui participent à mes ateliers que vous devez considérer Instagram comme étant votre CV en ligne, en fait. Maintenant, tout reste sur Internet. Donc, ce que tu dis, ça vient de ta responsabilité. Ce que tu montres, c'est de ta responsabilité. Et donc, je n'ai pas encore vécu un bad buzz, mais j'ai déjà vécu des personnes qui étaient pas de la même opinion que moi, qui n'appréciaient pas ce que je faisais. Et c'est là qu'il vient, en fait. Est-ce que tu sais qui tu es? Est-ce que tu as confiance en ce que tu fais? Et donc, c'est là que je me suis posé la question. Je me suis dit, est-ce que leur opinion vont influencer qui je suis? Et c'est pour ça que je dis aux personnes que parfois, les réseaux sociaux, c'est pas la vraie vie, en fait. Donc, il faut avoir un objectif. Il faut savoir pourquoi on est sur les réseaux sociaux. Les personnes ne sont pas amenées à être sur les réseaux sociaux parce que c'est assez dangereux. Émotionnellement, c'est quelque chose de très puissant. Mais, dès que tu sais qui tu es, dès que tu sais que voilà, je peux malgré les opinions des autres, je peux continuer à faire ce que j'aime et ce que j'ai envie de faire, bah ça va.
Prestan, vous parliez tout à l'heure de l'utilisation des réseaux sociaux, en tout cas pour la jeunesse tchadienne, qui est plutôt de divertissement. Est-ce qu'il y a des cas de figure où on ne distingue plus forcément ce qui est privé de ce qui est public, entre les photos prises aux toilettes, par exemple, à la cuisine, en discothèque ou dans un lieu de service? Est-ce que il y a une sensibilisation de la jeunesse tchadienne ou des instances de prévention sur l'utilisation d'Internet au Tchad?
J'ai bien peur qu'on n'en trouve pas, malheureusement. En tout cas, pour ma part, j'en ai pas rencontré, mais je pense qu'il est important qu'il y ait des groupes d'associations ou, je sais pas moi, des entités quelconques qui puissent, à la limite, un peu réguler cet accès, ou peut-être avant-gardiste, hein, essayer de conseiller des jeunes dans leur accès à Internet, parce qu'il y a éventuellement n'importe quoi qu'on peut regarder, des photos, certains propos qu'on devrait pas tenir compte tient sur les réseaux sociaux, sur Facebook. Moi, je pense que c'est important que certaines personnes, des personnes à viser puissent se regrouper et essayer de conseiller les plus jeunes pour leur accès à Internet. Sinon, on se retrouverait avec du n'importe quoi.
Queen, je vois que vous acquiescez, vous suivez un petit peu ce point de vue, puisque vous faites très attention au contenu que vous postez sur vos réseaux sociaux.
Oui, je fais hyper attention au contenu que je poste parce qu'il y a vraiment des jeunes filles qui me regardent, qui me prennent parfois pour modèle, pour exemple. Donc, tout ce que je dis, que même la façon dont je me comporte, mon comportement, mon attitude, tout ça compte énormément. Même mon sourire compte. Et ça, je suis consciente. Je suis vraiment de plus en plus consciente plus j'avance avancent dans ce, cette aventure-là. Et aujourd'hui, je vois beaucoup de jeunes femmes qui manquent confiance en elles, pas parce que elles ont vécu quelque chose qui a fait qu'elles elles ont pas confiance en elles, mais parce qu'elles ont vu des choses sur Instagram, par exemple, qui est en ce moment
très à la mode,
en train de booming, comme on dit en anglais. Et elles voient des jeunes femmes, des filles, elles ont 25 ans, elles ont une voiture, elles ont des maisons.
Ça fait rêver. Voilà. Mais c'est parfois une désillusion totale. Exactement. Quand c'est la vraie vie.
Exactement.
On la prépare, cette photo. Il y a beaucoup de faux, en tout cas pour Instagram. Mm-hmm.
Tout à fait. Il y a beaucoup de arrière-scène, enfin, scène behind scenes, comme on dit en anglais. Et ça, elles ne savent pas. Et souvent, je leur dis, tu sais pas qu'est-ce que la nana a fait pour arriver où elle est. Et surtout, qui tu es. Concentre-toi sur toi, ta personne à toi. Et parce que chacun a son couloir, en fait. Et tu peux pas mélanger les choses. Et je rencontre énormément de femmes comme ça qui sont vraiment brisées, qui sont vraiment perturbées par les réseaux sociaux et c'est pas évident, il faut faire attention.
Pourquoi vous avez choisi cette voie-là de vous exprimer particulièrement sur les réseaux sociaux, notamment Instagram, ouais. Vous avez également une chaîne YouTube.
Oui, exactement. Surtout, je trouve que, du moins, Instagram me permet d'exprimer ma créativité. C'est un des moyens qui est vraiment très facile pour moi d'exprimer ma créativité. Et c'est là où je peux créer une communauté. Donc, je peux rassembler des personnes dans un même intérêt. Donc, par exemple, j'anime des ateliers. Donc, on appelle ça des Instagram workshops, dans lesquels où les personnes viennent pour apprendre comment utiliser Instagram dans le but d'impacter, mais positivement. C'est-à-dire qu'ils ont envie de monter leur business, ils ont envie de créer un blog pour apprendre à, je ne sais pas, à coiffer les cheveux afro ou d'autres, c'est pour apprendre à se maquiller. Elles ont toute envie d'impacter, en fait. Et moi, mon rôle, c'est de les apprendre à impacter avec les outils et surtout avec de l'authenticité. Je t'apprends pas à avoir 10K followers en deux jours parce que c'est pas le but. Bah, par contre, je vais t'apprendre à comment, ok, je peux utiliser mon message positif et des outils pour amener à toucher des personnes, à impacter des personnes, à être une solution pour les personnes.
Voilà. Merci infiniment d'avoir répondu à nos questions, Queen.
Merci.
Merci également à Preston pour ce beau reportage sur la jeunesse tchadienne.
Alors, on dit quoi ? Diaranjai.
Et la semaine prochaine, on parlera des tendances capillaires chez les femmes africaines. Dites-nous, mesdames, si vous êtes plutôt tendance nappy ou rajout. Dites-nous aussi comment vous vous coiffez et comment vous prenez soin de vos cheveux. Et les garçons, j'attends aussi vos commentaires. Hein. On veut savoir ce que vous kiffez, plutôt les tissages, les tresses, les big shops. Voilà, on attend vos réactions dès à présent sur notre WhatsApp au 33 647 740 742 ou sur notre page Facebook.
musique malienne contemporaine. Mali puissance, moi je vous dis. C'était le guitariste et chanteur malien Samba Touré et son titre Ngoy Boiro.
Alors on dit quoi ?
Place à présent à l'initiative de la semaine pour Bouchra, faire avancer la cause des femmes au Tchad est devenue son quotidien. Avec plusieurs de ses sœurs et des amis, elle a cofondé en 2013 l'ONG Force pour renforcer le leadership féminin au Tchad. Bonjour Bouchra.
Bonjour.
Alors vous faites avancer la cause des femmes au Tchad. C'est l'une des missions que l'ONG que vous avez fondée qui s'appelle Force a. De quelle cause parle-t-on exactement? Quels sont les intérêts des femmes que vous défendez précisément?
Nous avons fondé en 2013 une ONG qui est partie en fait d'un constat simple. C'est que les femmes ne disposent pas des mêmes chances et des mêmes opportunités dans notre société que les hommes par exemple. Mmh. Pour être plus concrète, dans une famille tchadienne, lorsqu'il n'y a pas assez de moyens pour envoyer tous les enfants à l'école, par exemple, on choisira naturellement les garçons pour les scolariser. Mm-hmm. Parce qu'on considère que c'est un investissement pérenne qui va rester dans la famille. Par contre, les filles, elles iront dans une autre famille quand elles seront mariées. Et donc, c'est un peu de l'argent jeté par la fenêtre. Du coup, on n'offre pas les mêmes chances aux femmes. Et cela aura des conséquences par la suite dans leur vie d'adultes, et ça va les suivre toute leur vie durant.
Et quelles sont les actions, oui, du coup, que vous menez, vous et votre ONG, dans ce combat d'émancipation et d'égalité des femmes au Tchad?
Nous faisons des plaidoyers pour la scolarisation des filles, un plaidoyer fort. Nous allons voir des familles, leur expliquer le bien fondé de l'éducation pour les filles, d'abord pour elles-mêmes, pour la famille, ensuite pour la société, etc. Nous avons un autre axe d'action, c'est la réinsertion socio-professionnelle des jeunes filles en situation de précarité. Donc les filles mères, les filles qui ont été divorcées très jeunes, parce qu'au Tchad, les filles sont mariées jeunes et parfois quand ça se passe mal, elles divorcent alors qu'elles n'ont même pas encore 30 ans. Et donc elles se retrouvent avec des enfants, etc. Donc ce groupe de filles-là, on leur offre des formations. Nous avons la dernière formation que nous avons offerte était pour des jeunes filles au lac Tchad. Et donc c'était en couture, par exemple, pour leur permettre de gagner un peu d'argent pour faire face à leurs besoins, ne serait-ce que les plus basiques.
Et ce qui est intéressant aussi, c'est que dans votre combat, vous avez également coécrit un essai politique intitulé « Le Tchad de nos rêves ». Dedans, vous y décrivez une société tchadienne plus juste, selon vous. Comment vous visualisez ce Tchad de vos rêves?
Le Tchad de nos rêves, c'est un Tchad où tout le monde est logé à la même enseigne, par exemple, où nous avons tous les mêmes opportunités, les mêmes chances, quelle que soit notre provenance sociale, quelle que soit notre provenance ethnique, religieuse, quel que soit notre genre, notre sexe. C'est un Tchad où voilà, l'égalité des chances, la cohésion règne.
Et qu'actuellement, ce n'est pas du tout le cas.
Prenons le cas des femmes. Les filles, par exemple, ne disposent pas des mêmes droits que les hommes. Dans la société tchadienne, il y a un certain nombre de choses qui sont strictement réservées aux hommes et d'autres qui sont réservées aux femmes. Ce n'est pas dans une logique de dominer, dans une logique de léser, mais la société est ainsi faite.
Encore beaucoup de chemin à parcourir. Alors d'après vous, quel message vous souhaitez adresser à ces jeunes femmes africaines qui nous écoutent?
Je souhaite leur adresser un message d'espoir. Il est vrai que ce n'est pas facile quotidiennement, ce n'est pas facile d'être une femme dans certaines parties du monde dont l'Afrique fait partie. Et donc, je leur dis de persévérer et que si je devais comparer par exemple mon pays il y a quelques années ou il y a peut-être une vingtaine d'années à aujourd'hui, beaucoup de choses ont évolué. Donc, ce n'est pas une cause perdue.
Merci beaucoup, Bouchra, d'avoir répondu
Merci,
à nos questions. Bien. Au revoir.
Au revoir.
Alors, on dit quoi?
Bonjour tout le monde, je suis Kenneko Albert Dugnon, jeune entrepreneur malien depuis Bamako. Mon message à l'endroit de la jeunesse africaine est tout simple. Bien avant de vous le délivrer, j'aimerais d'abord m'adresser à nos aînés, à savoir les papas, les mamans, les tontons, les tantis, comme on aime le dire affectueusement chez nous. Laissez agir les jeunes. La fougue de la jeunesse ne doit pas être considérée comme une folie simple. Voilà, donc ça doit être beaucoup plus considéré comme de l'audace qui nous permet d'innover, de nous exprimer, de prendre notre destin en main et le destin de tout un continent. Ayez le courage de nous faire confiance et dites-vous qu'à un moment donné de votre vie, il a fallu que quelqu'un vous fasse confiance pour que vous puissiez vous exprimer et pour pouvoir décider de prendre votre destin en main et celui de votre famille et pourquoi pas de tout votre entourage et du continent tout entier. à cette jeunesse africaine, la jeunesse de tous les maux bien sûr, la jeunesse de manque d'éducation, de famine, cette jeunesse d'immigration, de grand banditisme, cette jeunesse d'instrumentalisation politique, de corruption, de manque d'emploi, d'exode rural, cette jeunesse d'enfants soldats, cette jeunesse de grossesse précoce, et également cette jeunesse des maladies sexuellement transmissibles, bien sûr, telles que le VIH-Sida, la jeunesse qui est victime de la malaria. Je vous dirai cet article des 8 leçons du leadership de Nelson Mandela, un grand homme pour nous, Africains, et pour le monde entier. Alors, il dit ceci, « Soignez l'apparence et n'oubliez pas de sourire. » Ce message nous dit tout simplement de garder espoir. Garder espoir, Nelson Mandela également nous le redit encore en nous disant que nous travaillerons ensemble pour soutenir le courage là où il y a la peur, pour encourager la négociation là où il y a le conflit et donner de l'espoir là où règne le désespoir. Selon moi, tout reste encore possible pour nous, jeunes Africains. Alors, levons-nous, battons-nous et prenons notre destin en main.
Vous avez entendu, Albert nous conseille de garder le sourire et garder espoir. Alors, continuons de nous battre pour faire bouger les choses. Merci, Albert. Et n'hésitez pas, vous aussi, vous pouvez partager votre vision dans Alors, on dit quoi sur RFI. Chaque samedi, envoyez-moi vos messages sur le compte WhatsApp de notre émission. Présentez-vous avec votre nom et prénom. Définissez vous en trois mots-clés, adressez ensuite votre message à la jeunesse africaine, puis aux aînés et expliquez-nous votre Afrique qui gagne.
Appelle-nous sur WhatsApp au 33 647 740 742.
Maintenant, dans Alors on dit quoi, on met fin aux infox qui circulent. On vous propose de vérifier des faits consacrés à l'Afrique qui ont circulé sur Internet en collaboration avec l'école de journalisme EGICOM à Dakar et le site de vérification des fausses nouvelles Africa Check. On le fait avec Valdez. Bonjour Valdez.
Bonjour Diara.
Alors aujourd'hui, vous nous parlez de 4 conseils sur le cycle menstruel qui ne sont pas scientifiquement prouvés. Alors, de quoi s'agit-il exactement ?
Alors Diara, au moment où nous publions cet article en août 2018, le post Facebook d'un internaute dans lequel figurent ces supposés conseils avait déjà été partagé plus de 138 000 fois. Aujourd'hui, il dépasse les 217 000 partages sur Facebook. Il s'agit donc d'un message dit préventif qui liste 4 pratiques qui seraient dangereuses pour la femme qui voit ses règles. La première consiste à ne pas boire de l'eau glacée, de l'eau gazeuse ou encore de l'eau de noix de coco. La deuxième porte sur de prétendus dangers du shampoing qui pourraient causer des maux de tête. Le troisième conseil indique qu'il ne faut pas manger de concombre parce que sa sève pourrait bloquer certaines règles dans la paroi utérine et causer la stérilité. Et enfin, il est indiqué que durant les règles, le corps ne doit pas être frappé, en particulier l'abdomen, car il peut provoquer des vomissements de sang. Cela serait à l'origine du cancer de l'utérus, des kystes et des barrières. L'auteur de cette publication n'a pas indiqué sa source, comme d'habitude sur les réseaux sociaux.
Et Valdez, vous nous dites qu'il n'y a pas de preuves scientifiques à cela.
Oui, Diara, car nous avons contacté le docteur Mam Rose Sall, qui est médecin spécialisé en gynécologie à Dakar, pour qu'elle analyse les 4 pratiques susmentionnées. La gynécologue a affirmé qu'il n'y a pas d'études scientifiques qui aient montré que manger du concombre, utiliser du shampoing, boire de l'eau glacée, gazeuse ou de noix de coco soit délétère durant cette période du cycle menstruel. D'après le docteur Sall, une femme qui voit ses règles n'a aucune attitude particulière à adopter, si ce n'est une bonne hygiène de vie et une alimentation équilibrée. Toute femme, selon la spécialiste, doit cependant rester à l'écoute de son corps. Elle conseille qu'il vaut mieux éviter certains aliments ou boissons si leur consommation crée un inconfort durant les règles. Cela dit, tant qu'il n'y a pas d'études scientifiques, on ne peut pas conseiller à toutes les femmes de faire ou de ne pas faire certaines choses, conclut-elle. Mais concernant les coups au niveau de l'abdomen, Dr Sall indique qu'ils sont dangereux dans tous les cas car ils sont traumatiques.
Alors pour finir Valdez, vous avez pu obtenir auprès du Dr Sall quelques bonnes pratiques à adopter par une femme lorsqu'elle voit ses règles.
Tout à fait, et comme je l'ai dit, lorsqu'une femme a ses règles, le docteur Sall recommande d'adopter une bonne hygiène de vie ainsi qu'une alimentation équilibrée et riche en vitamines et minéraux, tout particulièrement le fer. Il est également conseillé de changer de serviette hygiénique ou tampon toutes les 4 à 6 heures et de procéder à une toilette antiseptique une fois par jour au maximum. En cas de douleur, il est recommandé d'utiliser une bouillotte remplie d'eau chaude et de la placer au niveau du bas-ventre, cette chaleur ayant un effet antalgique. Concernant les dysménorrhées, donc les règles douloureuses, la gynécologue indique que dans la majorité des cas, les gens utilisent des anti-inflammatoires, mais toutes les femmes ne les supportent pas. Le traitement varie avec chaque femme en fonction de leur âge et de leurs antécédents, et donc là, il faut procéder cas par cas. En outre, si les règles sont jugées abondante, l'experte conseille de suivre un traitement à base de fer pour éviter une anémie. Alors, si aucun bilan n'a été fait et que la femme s'inquiète vis-à-vis de son cycle menstruel, Dr Sall recommande de se rapprocher d'un médecin.
Et bien entendu, consulter en cas de douleur au niveau des règles. Merci beaucoup Valdez et à la semaine prochaine.
Merci Diara.
Bon, maintenant on écoute un peu de musique qui nous vient tout droit de Nouakchott en Mauritanie. J'ai choisi cette semaine un titre qui s'appelle Debo du groupe L'Harmattan. On écoute Oumoussi, la chef d'orchestre du groupe, qui nous explique la thématique de cette chanson.
Assalamu alaikum RFI, assalamu alaikum les auditeurs. Je m'appelle Oumoussi, je suis artiste musicienne mauritanienne, chef d'orchestre du groupe L'Harmattan, créé en 2014 par des jeunes issus du centre de formation Nouakchott Music Action. Nous avons récemment enregistré un album d'une dizaine de titres que nous espérons que ça va sortir en 2019. Inch'Allah, dont le titre « Deboko Kamitan » qui veut dire que la femme est un trésor. C'est pour nous un moyen de montrer l'importance de la femme dans notre société. Parce que nous sommes quasi quotidiennement touchés par leurs souffrances, leurs peines ainsi que leurs sacrifices. Chanter l'engagement de la femme, c'est pour nous un moyen de rendre hommage à tous ceux qui se battent corps et âme pour le droit des femmes.
Démocratique du Congo, dernièrement, la population a été privée d'accès au web et aux réseaux sociaux. Résultat, les proches qui ont tenté de joindre leur famille ont été un peu saoulés. C'est en tout cas le message qu'a souhaité nous laisser Précis.
Bonjour, je suis Précis Anzolo, j'ai 28 ans et je vis en Ile-de-France, dans le 94, donc à Villejuif. Je suis originaire du Congo Kinshasa et du Congo Brazzaville. Et mon coup de gueule, comme toute personne d'origine du Congo, le sujet qui est dans la bouche de chaque personne de la diaspora congolaise dans le monde entier, c'est les élections. Alors, j'ai été choquée. Déjà du temps, parce que les élections ont pris quand même 3 ans, si on réfléchit bien. J'ai été aussi choquée de la manière dont ça s'est passé. Figurez-vous qu'à partir du 27 décembre, je ne peux communiquer avec aucune personne du Congo via WhatsApp. Sachant qu'on sait très bien que WhatsApp, voilà, ça peut aider tout le monde. On peut communiquer plus facilement. Et que appeler de Kinshasa vers la France, de la France vers Kinshasa, ça coûte très cher. Je les appelle quand même, mais voilà. Comment un pays peut être coupé, on va dire, de toute communication? C'est vrai qu'on pouvait les appeler, mais c'est dans la manière des choses, je trouve que c'est inadmissible.
Et si vous aussi, vous en avez marre de quelque chose dans votre pays, eh bien, partagez avec nous vos convictions en nous envoyant vos coups de gueule, un coup de gueule en vidéo, que vous pouvez nous adresser sur notre WhatsApp ou sur notre page Facebook.
Alors, on dit quoi sur RFI ?
Musique, concerts, cinéma, spectacle, Eva va dorénavant nous faire découvrir la crème de la culture africaine dans Alors on dit quoi. Eva, bonjour.
Bonjour Tiara.
Alors cette semaine, on va parler 7e art.
Oui, avec le Festival panafricain du cinéma et de la télévision de Ouagadougou, plus connu sous le terme de FESPACO. L'une des plus grandes manifestations du genre en Afrique, qui fêtera cette année ses 50 ans du 24 février au 1er mars prochain. De quoi s'attendre à une grand messe. Mais j'aimerais attirer votre attention sur une opération qui se déroulera en marge de la programmation, mais toujours en partenariat avec le festival et l'Institut supérieur de l'image et du son de Ouaga. Il s'agit de 7 jours pour un film. Alors, c'est un projet de formation à la réalisation d'un court-métrage destiné aux jeunes cinéastes burkinabés. Donc cette compétition n'en est pas à son premier coup d'essai, puisque une première a eu lieu au Cameroun en 2009 et une seconde au Sénégal en 2012.
Et cette année, il y a une nouveauté, Eva.
Oui, cette année, le concours est exclusivement réservé aux femmes. Les organisateurs ont en effet jugé bon de les encourager à passer derrière la caméra, à l'heure où rares sont celles qui participent à la chaîne de fabrication d'un film.
Et donc concrètement, qu'est-ce qui va se passer?
Alors, les 10 finalistes sélectionnés sur candidature, sur un sujet libre en fonction de l'originalité du scénario, seront encadrés par des professionnels en amont du festival pour peaufiner leur script et constituer une vraie équipe technique et artistique.
Il faut savoir que tout est pris en charge par les organisateurs, n'est-ce pas?
Exactement. À l'issue de la formation, celle qui aura le plus convaincu le jury aura la chance de réaliser, de post-produire, puis de diffuser son film à la fin du FESPACO. Un tremplin de taille pour la lauréate, puisque son film sera ensuite exploité dans des festivals à travers le monde. Et les recettes reviendront entièrement à l'équipe du tournage.
Et en quoi cette initiative est particulièrement importante pour la jeunesse et pour les femmes?
Eh bien, dans un pays où le taux de chômage touche plus de 50% des jeunes et atteint les 20% chez les femmes, selon un rapport de 2016 du Programme des Nations Unies pour le Développement, c'est une opportunité pour les femmes de s'insérer sur le marché du travail et qui sait, de se faire une place, comme on dit, à Ouagadougou. Alors n'hésitez pas, vous avez jusqu'à demain pour envoyer votre candidature à 7 jours pour un film 2019 à gmail.com. Toutes les infos sont sur leur page Facebook.
Merci Eva. À bientôt. Et alors on dit quoi? C'est aussi une émission qui propose d'améliorer notre quotidien et je suis donc aussi en compagnie de notre chère Joanne. Coucou Joanne.
Hello Tiara.
Alors aujourd'hui, vous nous parlez de stage à la photocopieuse. Qu'est-ce que c'est?
Bah, c'est un phénomène qui touche beaucoup de jeunes sur le continent. Les stages à la photocopieuse, ce sont des stages où les journées sont interminables parce qu'on a la sensation de ne rien apprendre et où on n'est bon qu'à faire des photocopies, à apporter le café ou à aller chercher le repas de midi du maître de stage. Peut-être que vous vous retrouvez dans cette situation actuellement. Peut-être que vous avez accumulé 2, 3, 4 stages à la photocopieuse. Peut-être avez-vous aujourd'hui du mal à trouver un emploi parce qu'on vous demande une expérience pratique que vous n'avez pas pu acquérir malgré vos multiples stages. Je vous propose quelques astuces pour tirer profit au maximum d'un stage académique ou professionnel.
Alors, quelle est la première règle à garder en tête?
Être ouvert et curieux. Il est vrai que dans certains environnements professionnels en Afrique, le réflexe n'est pas toujours à la pédagogie et à la transmission. Alors, il faut, à mon avis, aller chercher l'information soi-même. Commencez par vous documenter au maximum sur l'entreprise, son histoire, ses valeurs, l'évolution de son activité du démarrage à aujourd'hui. Si vous ne trouvez pas ces informations dans un livre, posez des questions. Si vous avez la sensation que certains de vos collègues sont agacés, répartissez les questions en fonction des pôles de compétences de chacun pour ne pas interroger la même personne tout le temps. Écoutez avec attention ce qui se dit autour de vous. Si vous ne comprenez pas un mot ou un terme professionnel, n'ayez pas honte, demandez afin qu'on vous explique. Et surtout, prenez des notes, toujours, tout le temps. Investissez dans un bon gros carnet et un joli stylo.
C'est aussi simple que ça, Joanne ?
Non, bien sûr que non. Il ne faut pas s'arrêter là. Exploitez l'existant et transformez vos contraintes en opportunités. Certains managers qui manquent de pédagogie ou qui ne transmettent pas pensent que ça leur prendra trop de temps de vous enseigner des choses. Facilitez leur la vie, ou plutôt, identifiez ceux qui vous semblent débordés et proposez-leur de l'aide. Soyez motivés et souriants. Ils penseront se débarrasser de vous en vous donnant une tâche ingrate, alors que cette tâche ingrate sera une source d'apprentissage pour vous. Si vous êtes malin, vous pouvez proposer des solutions à des problèmes que vous identifiez. Par exemple, vous travaillez pour un magazine local dans votre pays, mais il y a souvent des ruptures de stock. Proposez à vos patrons de développer une version en ligne adaptée au mobile pour permettre aux lecteurs qui auront loupé la version papier de se consoler avec la version mobile. Si l'idée plaît, il y a des chances qu'on vous demande d'y contribuer un minimum.
Un dernier conseil, Joanne ?
Attirez la sympathie de vos managers par d'autres moyens que votre productivité. Un mot gentil par-ci, une attention par-là, une oreille attentive. La vie au travail passe aussi beaucoup par les relations humaines. Vous aurez plus de facilité à obtenir des réponses à vos requêtes si votre capital sympathie dans l'entreprise est élevé.
Merci Joanne.
Merci Diarra.
Et voilà, alors on dit quoi ? C'est terminé. D'ici samedi prochain, vous pouvez nous contacter. L'émission, c'est vous qui la fabriquez. On veut vous faire participer au maximum. Alors on attend vos réactions, vos suggestions et vos commentaires. Partagez et likez notre page Facebook. Suivez-nous sur Instagram, suivez-nous sur Twitter. Et pour réécouter l'émission, rendez-vous sur le site de RFI ou sur notre SoundCloud ou même sur notre Google Podcast. Merci de nous avoir suivis et merci à toute l'équipe de l'émission, Beverly, Mariam, Djibril et Guillaume. Je vous donne rendez-vous samedi prochain. On parlera des tendances capillaires chez les femmes, plutôt nappy ou perruque. Comment sublimez-vous votre chevelure ? Dites-nous ce qui se cache sur votre tête, les filles. Allez, on se retrouve même heure, même fréquence sur RFI. Salut, Rangongol, à bientôt.